Cette semaine, dans le balado, on trouve une manière de canaliser notre colère, on élucide un complot et on prête sa voix. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff.
Salut, salut.
Donc,
est-ce que j'essaie d'imiter ta voix?
Vas-y, moi.
Non, j'ai pas pratiqué ça. Je suis arrivé sur le fly avec cette idée-là, malheureusement. Ça aurait été vraiment bon. Qu'on monte au montage, mais en même temps, ça serait très inintéressant.
Visuellement, ça aurait été drôle. Si on avait eu du visuel.
Ouais, c'est
là,
ça, exactement. Fais... C'est ce qui fait qu'en film, c'est peut-être plus intéressant qu'en podcast audio.
Exactement. Donc, fin de semaine, grande fin de semaine du Thanksgiving américain, donc l'Action de grâce américaine.
Du football. On parle football aujourd'hui.
Ouais, on a changé la vocation du podcast. Nous, on peut parler de la signature de Mike Matheson.
Exactement. Grosse nouvelle dans le monde du cinéma.
Qui vient juste de tomber.
Le défenseur du Canadien est prolongé.
Mais donc, vous allez comprendre que c'est pas une grosse fin de semaine. Tout le monde se sont tassés, ont laissé la place au one-two punch de Zootopia.
C'est ça, c'est pas une grosse en termes de quantité, exact. Mais en termes de qualité.
Et voilà.
Mais au Québec, on n'est pas en reste. Hein? On a une grosse sortie québécoise avec les Furries, un film sur les mascottes et l'amour... Les Furies. Ah,
oui, et non, les Flurries, oui, c'est ça.
Merci.
petit tour d'horizon d'actualité avant de parler des nouveautés à l'affiche. Donc, je me lance.
Ouais, j'ai juste des bandes
à l'annonce. Ça, je pense que ça va te faire sourire.
Ah ouais?
Puis je pense qu'on peut discuter
bon,
de ça.
Jurassic Park ou Ninja Turtle?
Non.
On a
mais
déjà
je pense,
parlé des
oui,
deux.
Mais je pense que ça doit être une franchise que tu as dû aimer, je pense. Rush Hour.
J'ai vu, mais je ne sais pas. Okay. J'ai pas de tatou de Rush Hour.
Non, okay.
Hein. Je pense que c'est des... ça a l'air comme déçu. C'est plus... C'est parce que contrairement à toi, je m'achète pas genre de chandail des films ou des affaires que j'apprécie ou les propriétés intellectuelles et tout. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Ah, ben oui, je me souviens d'avoir écouté ça au Wesso Club Vidéo. C'était bien drôle, mais écoute, je les ai pas revus
c'était
depuis
pas plus
15
marquant.
Ans.
Non, ben, ça aurait pu, tu sais, parce que c'est dans... Dans non, cette tranche d'âge-là.
Que je pourrais pas dire que ça m'a forgé autant que, mettons, un Armageddon ou un Titanic. Là, tu sais, ça a beaucoup plus marqué.
C'était plus marqué.
Ben, c'est pas des franchises de la même manière, mais ça, c'est vraiment des films que... Ouais, je m'en souviens d'écouter les trames sonores, des choses comme ça. Rush Hour, c'était la comédie, on la louait, puis on l'écoutait trois fois. Tu sais, t'avais comme... On louait quoi, 48 heures, les films?
Ouais,
fait
ouais,
là, on l'écoutait, genre, le soir, le lendemain matin, l'autre soir, puis on allait la reporter. Là.
Ben, je vois que pour moi aussi, tu sais, c'était une... Pâle copie un peu de Little Weapon, tous ces genres de body cop movies-là.
L'arme fatale au Québec, c'est ça.
Ouais, ben. Moi, j'avais. Bon, je suis un grand fan de Jackie Chan.
Mais ça fait, oui, c'est ça. Quand j'étais jeune, moi, je pense que j'ai plus vu Zizanie dans le Bronx, les Jackie Chan. Il y avait aussi un dessin animé de Jackie Chan.
Ouais, que
j'ai
jamais.
Vrac, là,
je truc de talisman, je pense.
Ouais, c'est ça qu'on aimait beaucoup, ça, avec mes cousins. Je me souviens qu'on écoutait ça. Fait que oui, je suis quand même de l'ère Jackie Chan, mais je ne suis pas autant passionné que d'autres de mon âge aussi, là, c'est vrai. Mais ça fait très longtemps qu'il y a des rumeurs d'un fameux quatrième, puis oui, puis quand, puis peut-être, puis non.
Mais ça se concrétise un petit peu plus.
C'est avec
quatrième
qui
volet.
Ces films-là? Dans le sens, c'est pas Lionsgate.
C'était New Line Cinema.
OK.
Donc Warner Brothers.
Ouais.
Mais pour faire la petite histoire, je pense que le dernier film remonte à 2007, le troisième film. D'ailleurs, Chris Tucker n'a jamais vraiment fait autre chose depuis. Il a comme
pris
une semi-retraite. Mais effectivement, dans les années 2010, on en parlait de faire un quatrième volet. Est arrivé finalement la controverse avec Brett Ratner, qui avait été accusé. Ouais, il était
canceled
dans
le
Me Too.
Ouais,
le réalisateur, qui était dans le Me Too Movement, donc d'harcèlement sexuel.
Super.
Et tout ça fait qu'il a été rendu toxique. Alors, plus personne ne voulait faire le quatrième film.
Ah, puis c'était attaché à lui.
Effectivement. Arrive 2025 avec un nouveau président américain qui commence à avoir de solides liens avec Hollywood grâce à David Ellison qui a de Skydance. On en parle dans les dernières semaines, on a parlé. Donc Paramount Pictures va prendre maintenant la distribution du quatrième Rush Hour. Donc Warner Brothers leur cède les droits.
Avec Brett aux commandes.
Avec Brett Ratner qui revient.
C'est un beau projet que tu nous présentes là, Pat.
Ouais, quand même. Mais vous allez voir les tentacules quand même de ce président américain. Donc, on sait que Trump est très...
Tu penses qu'il a la main mise sur bien des choses?
Ben, c'est lui, en fait.
Sûrement,
oui. Donc, c'est lui qui a dit à Paramount, « Hey, c'est une de mes franchises préférées. Ça serait le fun que le quatrième film ait de l'avant. » Donc, lui est très chummy avec Larry Ellison, qui est le père de Dave Ellison, qui appartient donc Paramount Pictures. Brett Ratner a fait un documentaire sur Melania Trump.
Ah, il est fin.
Hein, gentil, hein? Qu'Amazon vienne d'acheter pour 40 millions.
Ben oui.
Alors, ben voilà. Et le producteur de Rush Hour, Arthur Sarkissian, avait produit un documentaire l'an dernier sur Donald Trump, un documentaire très flatteur, The Man You Don't Know.
Ben, évidemment, oui.
Alors, tout est dans la famille trompienne.
Ah ouais, j'aime ça. Le... Ouais, on sent que c'est vraiment le cinéma militant gauchiste, hein, c'est tout ça.
Donc, ouais, fait que là, c'est assez drôle comme situation. Et là, ben, sur les réseaux sociaux, en tout cas, les commentateurs se moquent un peu de tout ça parce que le film préféré de Donald Trump serait Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme.
Ah ouais?
Et on se demande...
Mais c'est quand même un cinéma international, d'une certaine façon, d'avoir un acteur belge comme
ça. Ouais, effectivement. Bon, il doit être rendu américain, j'ai l'impression.
Puis c'est toutes des affaires illégales qui se passent dans le film, en plus, des combats illégaux.
Mais c'est l'homme... guerrier, tough et tout ça. Fait que, bref, alors on aura le droit à un Bloodsport... J'imagine qu'il y a dû en avoir un deuxième sans Van Damme.
Mais là, est-ce que c'est confirmé pour
Rush Hour, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il va sortir genre le 4 juillet? Là,
écoute, ça reste à voir. La journée de fête de Donald Trump.
Il est pas en guerre avec... Il se met pas en guerre avec la Chine puis tout, puis pour combattre la montée... De... Ben, pas en guerre, il vend des pistolets, là, mais tu sais, une guerre commerciale, puis contrer la montée de la Chine, puis...
Ouais, mais...
Puis là, tu mets un sino-américain en Jackie Chan, puis un acteur noir. Je sens que ça va contre tout ce qui... défend d'habitude, ben tant mieux, c'est comme une ouverture, mais c'est tellement contradictoire, là, dans le fond, tout ça en même temps. Là.
Ouais,
c'est ça, l'Amérique, dans le fond, finalement, du métissage, puis des cultures, puis des affaires comme ça, mais à chaque fois, il est comme, il y a good jeans, à chaque fois qu'il y a des petites blondes de 14 ans, fait que qu'est-ce qui se passe, là?
Il faut croire que lui, il aime bien les jokes sur les Asiatiques et les...
Et puis les Afro-Américains.
Et les Afro-Américains, ouais, c'est ça, pétage de gueule. Donc,
ouais.
Fait que voilà. Alors, Rush Hour 4 va vraisemblablement voir le jour chez ce nouveau studio-là. Okay. D'ailleurs, apparemment, ils ont annoncé qu'ils vont tripler leur offre de films parce que je pense que cette année, c'était juste 8
films. Oui, il y avait un petit calendrier.
Assez tranquille. Probablement parce qu'il y avait cette transition-là qui s'en venait. Mais donc, elle essaie de confirmer que d'ici 2027, il y aura 18 sorties du côté de Paramount.
Je pense que c'est pour le meilleur et pour le pire. Là. Ouais. Parce que, en fait, peu importe les studios américains, c'est pas contre Paramount. Là. À chaque fois qu'ils augmentent, ben, c'est des lignes à l'eau. C'est pas tous des succès. Il y a des échecs. On peut pas. Ils divisent aussi leurs énergies. Ça vient. Je veux pas saturer le marché. Mais je comprends que si tu vois qu'un Universal, tu sais, Disney doit être plus dans le justement 15-20 sorties par année. Là. Ça inclut tout le Fox, Searchlight, puis tout. Peut-être même jusqu'à 25. Mais Universal sont à presque un par semaine. Là. C'est 35-40 films par année. Fait que c'est sûr que tu vois leur part de marché. Leur moyenne au bâton est un peu moins élevée, mais ils vont bien plus souvent. Ils ont plus de présence au bâton si on met ça dans le même titre. Fait que finalement, ont plus de chances. Ils font plus de coups de circuit au bout de l'année.
Tout à fait.
Fait que je comprends qu'un Paramount, un Sony, Warner, nous autres aussi, plus. T'sais, cette année, c'est spécial. Warner aussi, là, eux sont dans des ventes puis des postures et tout. Ils ont eu une année difficile, fait qu'il y a peut-être il y avait eu il y a 2 ans difficiles, ça a bien fini, ils ont peut-être tassé des choses, etc. Fait que c'est le seul distributeur, sauf erreur, je vais rapidement, c'est le seul qui a pas de film à Noël. Là.
C'est vrai.
Depuis One Battle,
puis
ils ont Wuthering Heights en février. Ils étaient supposés avoir Cat in the Hat, qui ont tassé novembre, l'ont tassé à février, finalement, ils l'ont retassé à novembre prochain. Fait que Thanksgiving 2026, là, littéralement dans un an, comme ça va être Hunger Games, puis le chat dans le chapeau, là, chat chapoté, je sais plus comment ils l'appellent, en animation.
Ouais, chat dans le chapeau, chapoté.
Ouais,
c'est
il était supposé avoir en octobre
Shrek, ça,
Mortal Kombat, puis là, il y a. Ouais, mais je pense que pour vrai, ils l'appellent le chat chapoté.
Le chat chapoté, ok.
Mais comme. Pas dans le sens qu'il a un chapeau sur la tête, là, Cat in the Hat. En tout cas, bref, à suivre. On s'en reparle dans un an. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un des rares. Fait que c'est sûr que Noël, c'est une grosse période. Si tout le monde sort des films, ce qui est quasiment le cas cette année, c'est rough. Puis c'est pas tous les films qui vont être dans tous les cinémas, puis etc. Mais ce qui peut être bien d'une certaine manière. Mais quand tout le monde en a, c'est trop. Fait que là, c'était le seul qui. Tu sais, littéralement, One Battle, là, quitte là, dans les derniers cinémas. Fait que c'est pas juste de dire qu'ils n'auront pas du sang neuf, c'est que littéralement, il n'y aura aucune présence dans les cinémas pour eux. Fait que, ouais, c'est plus dur. Mm. Tu as quelques millions que tu laisses sur la table.
Exact.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tous les distributeurs sortent un film, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur film ou un film adapté, dans le sens qu'il n'y a pas besoin de tous des films de Noël, mais tu sais, contre-programmation. Mais si tout le monde est en contre-programmation, à un moment donné, ça se recoupe, là, les comédies, les drames, les internationaux. En tout cas, c'est my two cents là-dessus, là, mais bref. Qu'il y ait plus de films, ben, super, là, mais ça va être pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il y a aussi, en fait, des. Paramount Plus a eu beaucoup de films qui ont envoyé directement sur leur plateforme dans les dernières années, là, qui ont racheté et qui ont mis là-dessus, ou que peut-être qu'il n'y avait pas de fenêtre. Des choses, c'était pour la pandémie, mais à le dos large, là, maintenant, c'est plus ça. Et beaucoup de films d'action à 100 millions, mais qui étaient quand même des coquilles vides, là. C'était pas mal de la vidange. Fait que. Est-ce qu'on s'en est ennuyé tant que ça au cinéma? Si c'est ce genre de film-là qui sort, ben, c'est des Take the Money and Run. Là, et...
ah, j'ai l'impression qu'on avait parlé la semaine dernière d'ailleurs de Star Trek, donc qui est une de leurs propriétés. Alors j'ai l'impression qu'ils vont essayer de probablement de regarder de leur catalogue, de voir quelle franchise, là, qui ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film, puis essayer de, d'aller chercher des, public ça, pour ça. Là, fait que, d'autant aussi, plus que Mission idée, Impossible comme... se termine, qui était leur dernière grosse franchise de ma mémoire.
Ils ont Transformers aussi, Transformers, là, qui gossent un petit peu des fois. Là. Il a fait l'animé qui a vraiment pas marché, puis je pense qu'ils espéraient pouvoir relancer ça. Même chose les Ninja Turtles, mais c'est moins gros que Mission Impossible. Ça, je me souviens plus c'est quoi les autres. Top Gun, c'est rendu une franchise.
Mais
ils doivent travailler sur un 3.
Oui, ça, c'est sûr, ouais.
Oh ouais, je comprends. Là, s'ils veulent être dans game puis dans ligue, c'est ça. Faut que t'en fasses plus. Puis c'est ça que les autres font. Un film d'action, une fois de temps en temps, il est bon. Une autre fois, il est comme bien ordinaire. Mm. Puis surtout, je pense que c'est ça le danger. C'est que. On dirait qu'on est en train de sortir d'une ère où on donnait 100 millions pour n'importe quel film. Là. Puis là, on réalise que ouais, c'est pas si évident que ça, rentrer dans son argent. Puis surtout, plus tu n'as, plus tu es en compétition. Là. Mm. Fait que là, il va falloir faire plus avec moins là, pour bien des films, je pense. Là.
Ouais. Donc, parlant de franchise existante, un peu chancelante, The Exorcist, on sait que
très
c'était...
Oui,
parce que ce coup-là, de c'était Universal, en fait, qui avait racheté
avec
les droits...
Avec Blumhouse?
Avec Blumhouse, oui, ouais, avait racheté les droits de Warner Brothers pour 400 millions sur l'univers de l'Exorcist. Elle avait lancé en 2023 ce qui devait être le début d'une trilogie.
Oui, par David Gordon Green.
David Gordon Green, effectivement.
Lui qui avait relancé
Halloween. Oui, avec succès, mais ça n'était pas le cas avec les Exorcistes où sont plantés royalement. C'était Exorcist Believer. Donc, finalement, on avait annoncé que Mike Flanagan était pour reprendre le flambeau et c'est chose faite. Donc, il va se confirmer que ça va être son scénario et ça va être lui à la réalisation derrière ce nouveau volet qui va arriver en 2026. Et c'est Scarlett Johansson qui sera la tête d'affiche.
Ah ouais, OK.
Ouais, donc, et on promet que si ce n'est pas un remake ni un prequel, sequel, ça va être dans la lignée du premier film, mais on va nous présenter vraiment un nouveau récit, un nouveau personnage et tout ça. Donc,
est-ce qu'on sait la date, octobre?
Non, c'est pas encore annoncé.
Okay.
Mais ce serait, oui, probablement, on peut mettre un petit 2 qui vont viser l'Halloween avec ça, certainement.
L'Halloween, bon.
Alors, moi, j'ai bien hâte de voir, honnêtement, Flanagan, je pense qu'il est... En tout cas, est plus constant que David Gordon Green. Je trouve qu'avec sa trilogie d'Halloween, c'était pas toujours parfait. Fait que Flanagan, c'est lui qui avait fait récemment The Life of Chuck.
Ouais, il se promène un peu plus. Il a fait bien du Stephen
King. Beaucoup de Stephen King. Il a fait du Netflix aussi.
Ouais. Ah, c'est lui qui avait fait la suite du Shining. Là,
aussi, ah oui, c'est Dr. Sleep, oui. Puis je pense que The House of quelque chose, j'ai oublié son Netflix. Bref. Fait que voilà, pour les nouvelles, bande annonce, quand même, trois petits trucs qu'on a relevés. Parlons de. Non, gardons ça pour. Ah non, les deux peuvent aller.
Guide-nous.
Allons-y avec le. La bande-annonce d'un film québécois qui va prendre l'affiche l'été prochain.
Oui, François.E.
François. C'est genre de voir comment ça va se
dire. J'imagine qu'on va le prononcer Françoise, mais c'est François.E. Une comédie de Jean-François Asselin qui n'a pas fait tant de cinéma. Il a fait du cinéma plus dramatique, mais qu'on connaît entre autres pour Plan B, Les Pêcheurs ou Back in the Days, François en série justement. François. Ça met en vedette Louis Morissette, Robin Aubert, Geneviève Schmidt et Mystérieuse Pascal Desrivillon, que j'ai cherché un peu. Je pense que ça va être son plus gros rôle jusqu'à présent. Dans le petit teaser de une minute, évidemment, je pense qu'on veut profiter du véhicule des Furies pour nous demander de placer la bande-annonce devant. Là. C'est un distributeur différent, mais quand même, d'une comédie à tirer du monde sur la prochaine grosse comédie.
Oui.
Fait que c'est pas 100% clair, mais vu que c'est plus une trois petites scénettes pour nous montrer des blagues, mais dans le fond, le personnage de Louis Morissette a dû mentir sur son identité de genre
pour
obtenir un emploi ou quelque chose.
C'est un scénariste qui, sa carrière stagne un peu, donc pour aller chercher des subventions, on doit maintenant cocher les bonnes cases.
Fait que là, il a dit qu'il était trans, fait qu'après là, il va être un peu à la j'en suis, va être pogné à jouer le rôle de... un homme qui est en train de changer vers une femme en identité. Fait que,
exact.
Fait qu'il va sûrement se mettre dans les pieds dans les plats. Peut-être qu'il va rencontrer d'autres personnes réellement trans et réaliser qu'au bout de cela...
D'après synopsis, ça ressemble un peu à ça. Là.
Ben, tu sais, d'après moi, ça se veut, puis je dis ça poliment, mais tu sais, c'est un film fait par des gens sont d'une cinquantaine d'années qui réalisent ça. T'sais, on a juste Xavier qui sort dans quelques semaines, qui est un peu la même chose. Puis je regarde pas ça de haut, c'est juste comme c'est parfait. C'est comme un message d'ouverture sociale qui est en train de passer à travers différents véhicules pour différentes, je sais pas si strates de la société ou groupes. Le groupe démographique, ça serait plus ça que je veux dire. Fait que c'est bien correct. Là. Je pense qu'il va y avoir une couple de bons gags et voilà, à découvrir l'an prochain.
Quand même, il faut souligner que co-scénariste, c'est Jean-François Léger, qui lui a travaillé beaucoup à la télévision, mais sur des grosses séries, Dans une galaxie près de chez vous, Les parents, je pense Les pêcheurs aussi, Une grenade avec ça.
Ben là,
fait qu'il est beaucoup dans ce type d'humour-là.
Je suis pas pour ma paroisse, mais j'ai mélange toutes les Jean-François du cinéma. Il y en a une couple, c'est ça. Fait que là, il y en a deux là-dedans. Fait qu'il y a Asselin puis Léger. Fait que c'est déjà, ça. C'est mélangé.
Mais effectivement, Plan B, qui est une des meilleures séries des dernières années. Et lui, il avait fait la première saison, mais au Canada anglais, c'est lui qui est derrière, en fait, toutes les trois saisons.
Ouais. Ben là, c'est encore une production de K.O. aussi, le film.
Et qui reste en famille. Donc, 6 juillet pour Françoise. Sinon, petit...
Je sais pas si c'était 8 juillet.
Oui, 8. Bon.
6-8. Début juillet. Première semaine de juillet.
Voilà, on peut se dire, on peut se mettre d'accord là-dessus.
On s'en reparle.
Un petit teaser qui devrait prendre l'affiche, celui-là, en décembre 26. C'est le nouvel Astérix en animation 3D. Donc, Astérix, c'est le royaume de Nubie.
Ouais. C'est qui? C'est les Patelières
Les scénaristes, en fait. Ouais. Donc, Mathieu Delporte et Alexandre de la Patelière, du Comte de Monte Cristo, des Trois Mousquetaires. Réalisateur, je ne le connaissais pas. Je
sais pas noter.
Je suis allé voir un peu, mais je pense que c'est quelqu'un qui provient vraiment de l'animation. Donc,
c'est une histoire originale.
Qui amène Astérix et Obélix en Afrique. Pour essayer de trouver. C'est un.
J'espère qu'on s'est pas trop inspiré de Tintin au Congo.
Non, vraiment pas. Ils doivent trouver un morceau de baobab.
Ouais, parce que tout le monde est devenu des bébés.
Effectivement,
là,
le village sont devenus des enfants parce que Panoramix a mis une élixir de juvence dans la potion magique. Et là, ils doivent recréer une potion pour leur donner leur taille adulte. À noter quand même que depuis le dernier film d'avant, donc c'était Astérix et le secret de la potion magique, qui était aussi en 3D, en animation, de 2018, c'est quand même Christian Clavier qui a repris la voix d'Astérix.
Ah ouais,
parce qu'évidemment, longtemps, c'était Roger Carrel, qui datait de...
Obélix, non?
Oui, c'est ça. Qui est décédé depuis, mais j'avais pas réalisé que c'était Clavier qui avait repris son rôle d'Astérix.
C'est vrai, parce que lui, il était le premier à le faire en réel pendant quelques films avec Depardieu.
Oui, oui.
Ah, ben oui, c'est vrai.
Donc,
mais puis, à part, tu sais, finalement, l'exception, c'est Mission Cléopâtre, qui est comme dans les meilleurs, dans les plus drôles, dans les plus iconiques. Mais sinon, les animés battent pas mal toutes les autres en prise de vue réelle.
Je suis d'accord.
Fait que je suis vraiment plus excité qu'il y ait une animation comme ça. J'ai très hâte à ça, en fait.
Oui, puis une histoire originale, je trouve ça le fun. Avec ces scénaristes-là, en plus, je suis bien curieux de voir
les... Puis moi, je suis un fan modéré d'Astérix, c'est-à-dire que j'apprécie, mais j'ai pas tout lu. C'était pas ce comic-là que je lisais le plus quand j'étais jeune.
Tu préférais Tintin au Congo?
Oui, exactement. Je trouvais ça des belles valeurs. Non, mais oui, j'étais plus Tintin et les bandes dessinées. On avait les bandes dessinées doubles.
Oui.
Puis les petits films, là, ils duraient 20 minutes. Là, ils refaisaient
les dessins, la série animée. Ouais,
ça combinait pas mal ces deux choses-là. J'aimais beaucoup Tintin. J'étais plus même un peu Spirou, Lucky Luke par mon père. Mon père achetait des Lucky Luke, puis on s'y prêtait, puis tout. Fait que moi, j'étais plus ça que... que Astérix, mais je me souviens surtout des films et tout, fait que c'est un que comme mettons Le Secret des Dieux, c'est genre j'étais pas allé voir ça au cinéma, mais plus tard je l'avais écouté sur une plateforme ou quoi que ce soit, puis je suis un samedi matin, j'avais passé un bon moment avec ce film-là, j'ai trouvé vraiment drôle et sympa, fait que oui, j'ai bien hâte l'an prochain que ça sorte. Ça va être un bon film du temps des fêtes pour la francophonie.
En attendant, en plus, le Astérix Live le prochain, hein, parce qu'on avait évoqué que c'était Jonathan Cohen qui
oui,
serait probablement
le réalisateur.
Oui, c'est
ça. Ouais, c'est comme Spider-Man et tout. Là, les deux sont alignés. Hey, on peut-tu... je sais pas si tu l'as peut-être pas... Ah non, on s'est dit qu'on leur parlait. C'est parce qu'on est dans les bandes dessinées jeunesse.
Vas-y.
Marsupilami, qui sort début février. La bande-annonce... en France, vient de sortir, je ne suis plus pâté, je pense, là, en tout cas, vient de la sortir, fait que ça ne sera pas trop long d'après moi, parce qu'au Québec, c'est TVA Film qui le distribue, la bande-annonce va arriver aussi, parce qu'il va sortir en France le 4 février, parce que les films sortent un mercredi, puis au Québec, le vendredi 6 février, fait que c'est une sortie conjointe, et c'est toi qui es heureux, parce que c'est la gang à Philippe Lachaud qui reprennent Marsupilami. Il s'appelle-tu de même pour vrai? Non, la bande à Fifi.
Oui.
C'est son vrai nom comme ça?
C'est leur groupe, c'est la bande à Fifi.
Ouais. Ah, je savais pas. Ouais, ouais. Okay. Et fait que c'est eux qui ont fait les alibi.com, babysitting et malala. Ouais. Je pense qu'on en a parlé un petit peu la dernière semaine d'ailleurs. Fait que là, la bande-annonce est sortie. Il y a des clins d'œil, je trouve, à genre, le genre de Paddington, mettons, là, les films, les Gremlins, E.T., ce truc comme ça. C'est un cinéma qui est assez physique, des claques à la gueule, des affaires comme ça. Je pense que c'est comme... Écoute, ça n'a pas la prétention d'élever le cinéma, mais je pense que ça va faire un film très drôle et très divertissant en famille. Mm-hmm. C'est toute sa gang, c'est ça, Tarek Boudali, sa conjointe Élodie Fontaine, puis les autres qui en découlent de tout ça. Fait que je pense que c'est une bonne idée de leur part d'avoir confié ça à eux. Puis il va y avoir aussi Jamel Debbouze,
Jean Reno. Qui reprend son personnage, lui, sur la piste de Marsupilami, je pense. Ouais.
Qui était de Alain Chabat.
Ouais, c'est ça.
Okay, qui avait aussi un bon succès à l'époque, c'est ça. Fait que voilà. Fait que ça sort le 6 février. Fait que la bande-annonce est disponible. Et il nous reste quoi? Un teaser?
Ouais, de Hoppers. Du nouveau Pixar. Donc, il prendra l'affiche le 6 mars. Où on retombe dans le monde animalier, cette fois-ci.
J'ai l'impression que parenthèse, ça se peut-tu que le fameux La Relâche, le Spring Break aux États, il est une semaine plus tard que nous au Canada? Parce qu'il y a toujours... c'était-tu l'an dernier ou l'autre d'avant? C'était Kung Fu Panda 3, c'est il y a deux ans. Puis l'an dernier, Puis qui sort toujours le dernier week-end de La Relâche québécoise, là, mettons. Fait que j'ai l'impression que ça doit être que ça sort pour la première de leur relâche ou quoi que ce soit. Fait que, je l'ai pas écouté. C'est une fille, que sa mère est généticienne.
Je sais pas si c'est sa mère,
mais quelqu'un qu'elle connaît.
Je pense que c'est sa professeure d'université qui a inventé un appareil scientifique qui permet de transplanter le cerveau d'un humain dans le corps d'un animal. En fait, plus dans le but des observer et tout ça. Mais là, évidemment, elle va se trouver coincée au cœur d'une révolution animale qui veut renverser les humains et tout ça.
C'est des lapins.
Fait qu'elle, elle, c'est un castor qu'elle joue. Ouais. Fait que ça a l'air très sympathique. Donc, à découvrir le 6 mars, ce nouveau Pixar-là. Et restons donc dans l'animation.
Devine quoi, la bande-annonce va être partout
sur
le nouveau.
Ce qu'on parle, Zootopia 2, qui prend l'affiche de Jared Bush et Byron Howard, qui reviennent. C'était ceux qui avaient fait le premier film, d'ailleurs.
Oui, et ça sortait, comme on disait la semaine dernière, ça a sorti mercredi, là, à cause du Thanksgiving. Les voix, on retrouve le fameux duo, là, c'est... Judy Hopps, la pine, et Nick Wilde, le renard. Fait que c'est Jennifer Goodwin, qui est plus une comédienne de voix, là, on la connaît moins, pas de visage, mais c'est Jason Bateman. Et on ajoute Kiwi Kwan, qui va jouer un serpent, Andy Samberg, un wildcat, un chat sauvage.
Un lynx du Canada, je pense.
Peut-être. Écoute, on est à Zootopia, il n'y a pas de pays. Idris Elba reprend la voix du chef buffle, le chef de police, Shakira qui est la gazelle chanteuse, Danny Trejo faire la voix d'un sympathique lézard. Alors là, ce qui se passe, c'est le fun. Il y a tout de suite au début du film, il y a un recap de la fin. Et nous, on est 10 ans plus tard, parce que c'est 2016, on est dans 25, là, 9 ans et quelques. Mais là-dedans, c'est la semaine d'après, pratiquement. Ils ont fait leur grosse arrestation, hein, de stopper toute la grosse histoire du premier film, mis le méchant derrière les barreaux. Mais là, on dirait que leur hype comme ça de ce duo improbable, parce que lui était un petit criminel, une policière qui essayait de se faire valoir, où tous les policiers sont des gros taureaux, puis des bœufs, puis des gros jocks. Puis là, ça marche pas, puis il essaye de faire des affaires spectaculaires, puis des grosses arrestations, mais là, ils contreviennent aux directives et tout, fait qu'ils se font beaucoup challenger de genre, ben là, là, vous faites juste merder, là, c'est ça. Fait que vous devez, ils forcent à s'inscrire à
une thérapie
ouais. de professionnelle pour les coéquipières. Mais finalement, elle va avoir quand même un instinct de dire « Hey, dans ce truc-là qui a foiré, dans le plan qui a foiré, j'ai l'impression qu'il y avait des écailles de serpent, puis il n'y a aucun reptile à Zootopia. Fait qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, ou il y a serpent sous roche. » Et éventuellement, on va voir l'apparition du fameux serpent joué par Kiwi Kwan. Je me souviens plus son prénom, The Snake.
Gary
The Snake. Et fait que contre vents et marées, ils vont travailler ensemble ou se chicaner pour essayer de trouver pourquoi est-ce qu'il y a ces fameux reptiles qui viennent causer du grabuge et de la zizanie dans Zootopia. En fait, pourquoi à base il n'y en a pas et pourquoi là ils reviennent foutre le bordel. Aussi sympathique que le premier. Le premier, ça avait la force d'être une nouvelle franchise. Ben, une nouvelle franchise, une nouvelle idée. On ne savait pas que c'était une franchise. Alors, ça a vraiment bien marché. Je pense que ce n'était pas sorti à la même période. C'était sorti à la relâche, je pense.
Je ne me rappelle plus. Ouais.
Puis, fait que c'est devenu un succès. Je ne vais plus noter là, les nombres de millions de dollars.
Un milliard.
Fait que c'était une question de temps avant qu'on ait une suite, mais aussi une question de bonne idée. Et c'est vraiment un film qui est sur deux niveaux, que oui, on traite de quasiment d'immigration, de problèmes sociologiques, même des questions sur les consommations, les dérives informatiques, puis des choses comme ça, mais c'est très subtil. Au premier plan, il y a cette enquête, il y a cette histoire d'amitié, il y a cette histoire d'ouverture aux autres, dire qu'on les aime, dire que si on agit d'une certaine manière, c'est parce qu'on... Tu sais, comme qui aime bien, châtie bien, là, un peu ce côté-là. Fait que c'est ça. Eux, il faut qu'ils brisent leurs difficultés pour bien travailler ensemble. C'est une relation d'amitié. Et c'est le fun aussi, mais c'est pas une relation d'amour, là, justement. Là. Et puis c'est une enquête. Puis les personnages sont drôles. Il y a beaucoup de blagues visuelles qui font référence à de la culture populaire à animal, à un ours qui boit un coke, puis des choses comme
Et au film aussi, quand même, un petit clin d'œil.
Au cinéma en général.
Au cinéma, il y en a une référence à Pixar, il y avait un bon gang, mais j'ai oublié le film, mais surtout The Shining.
Ouais, là, il y a une scène de labyrinthe puis de souffleuse.
Vraiment,
tout.
C'est bien placé.
Ouais, fait que c'est ça, fait qu'il y a ces deux niveaux-là, puis tu sais, c'est comme la plupart quand même des films animés, les 3 ans, ben là, ça dure 1h40, là, ils peuvent trouver ça un peu long. Là, vous connaissez vos enfants, mais à partir de 7 ans, que vous ayez vu le premier ou pas, allez-y, là, foncez, là, c'est génial.
Oui, tout à fait, très sympathique, un univers qui est le fun. Manque peut-être un peu le charme du premier, on le découvrait, cet univers-là, alors qu'on est plus dans l'action.
Mais on explique beaucoup le... comment ces animaux... Parce que ça, moi, j'ai pas réécouté le premier.
Moi non plus.
Dans mon souvenir, c'était pas trop expliqué pourquoi...
Comment
des
ils cohabitent ensemble.
Ouais, puis des fois, il y a de la neige, puis des fois, c'est chaud. Puis là, on parle de vraiment cette technologie-là, puis cette segmentation, dans le fond, des climats.
Donc, c'est ça. Donc, très sympathique personnage, très attachant, beaucoup d'humour, gags visuels et compagnie, tu l'as bien résumé. Je pense que Zootopia va jouer longuement, jusqu'à Noël.
Jusqu'à Noël. Moi, je pense qu'il va peut-être avoir des résiduels à relâche.
Oui, peut-être. Donc, un autre succès assuré à Disney qui en ont dû ses besoins quand même. Cette année, ça a été plus dur, il faut le souligner quand même. Ben, bien que Stitch leur a fait beaucoup de bien.
Oui, c'est ça. Parce que du côté de Disney, tous les films, comme je disais d'emblée, tu sais, ben, pas quand ils sont rendus dans le Searchlight et ces affaires-là, là, mais de base, là, ce qui est leur grosse locomotive, il n'y a pas beaucoup de films en bas de 100 millions. Mais quand ça marche et que ça fait 1 milliard, ben, t'essuies au moins 3 échecs. Fait que faut qu'il y ait... si on a une moyenne de baseball de 3.15, ça va être correct.
C'est assez payant.
Il y a Avatar qui s'en
oui,
vient.
Ça. Ah, oui, oui, quand même.
Ça devrait être correct.
Ils vont mais bien, oui, il va si... avoir un très bon quatrième.
Mais il coûte une fortune, c'est ça. Il ne coûte pas 30 millions. Fait que même s'il fait 2 milliards, il leur en a coûté 900 millions. Là, mais bon.
Mais ce qui est surprenant avec Zootopia, c'est que c'est un gros succès en Chine. Parce qu'on sait que les productions américaines ont de la misère depuis la COVID. Mm-hmm. Et là...
Même après deux jours, il a ouvert puis tout. Okay, parce qu'il y a des films qui avaient de la misère à placer.
C'est ça. Écoute, en deux jours, je pense qu'il a ouvert à 30 millions, là, ce qui est déjà le plus gros succès, je pense, américain de l'année. Là. Fait que ça s'annonce
Ouais, s'ils si vont chercher un petit 200 millions, là, ça les aide beaucoup.
Et oui, écoute, ça risque d'être pas mal plus parce qu'il y a même un parc thématique que Disney a ouvert, Zootopia, en Chine, à quel point le premier avait été un grand succès.
Okay.
Donc, il y a ces phénomènes-là, des fois, qu'on ne comprend pas toujours.
Je sais pas si la voix de KiwiQuan aide. Je sais pas s'il est un peu... il doit pas être une vedette là-bas.
Non, mais d'avoir un personnage d'origine asiatique, je pense que c'est sûr que ça va contribuer.
Asiatique, mais asiatique chinoise, parce que s'il était japonais, ça les intéresserait pas certain. Nécessairement. c'est un peu comme nous, là, si tu arrives au Québec, puis tu dis « Hey, c'est un Français, c'est comme vous! » Puis là, je suis comme « Non! » Puis là, en plus, là, c'est la même langue. Là. Je comprends que Japon, c'est pas la même langue. Bref.
C'est un autre film qui devrait, je pense, bien fonctionner du côté du Québec, Les Furies de Mélanie Charbonneau.
Premier long métrage écrit par Gabriel Côté, qui joue le rôle principal. C'est une grosse vue québécoise, donc tout un casting flanqué de Anne-Elisabeth Bossé, France Castel, Juliette Gosselin, pas mal juste des dames, Aurélia Arandi-Lompré, qu'on avait découvert dans Comme le feu, puis moi j'ai découvert au cinéma, là. Je sais que tout ce monde-là joue à la télé puis au théâtre et tout, Debbie Lynch-White, Liraël Dauphin, Sandrine Bisson et les gars qui ont quand même un petit rôle souvent de pas fin dans le film, c'est quand même aussi des faces qu'on aime, Antoine Bertrand, Maxime de Cotteret, le crotté de service, et Antoine Pilon. On est à Waterloo. C'est une comédie sportive. À Waterloo, il va avoir une nouvelle équipe de semi-pro et à l'aréna, j'oublie le nom des personnages, là, le personnage d'Antoine Bertrand claire toutes les ligues amateurs, surtout, tiens, toutes les ligues féminines. Mm-hmm. Pour dire, là, c'est pour les pratiques de hockey, c'est pour le hockey, c'est pour les... comment ils s'appellent, donc? Les Napoléons. Fait que là, Mélissa, donc le personnage de Gabriel Côté, est en tabarouette. Elle est furieuse. Elle va se battre un peu, puis là, elle va copé de travaux communautaires pour contrôler sa colère. Et on la place dans un cercle des fermières pour dire « Tu vas tricoter, puis tu vas prendre ton mal, puis fais ça une couple de week-end, etc. » Sauf qu'elle va faire la connaissance d'autres femmes dans ce cercle des fermières, dont un personnage joué par France Castel, Yvette, qui, elle, était une ancienne championne de roller derby complètement oubliée et qui va dire « Hey, les gros gars qui veulent tout prendre, on va leur prouver, puis on va monter une équipe de roller derby et éventuellement faire le pari de dire que leur premier match attirera plus de gens que le premier match des Napoléons en misant beaucoup sur ce match-là. Un peu comme Stan dans Les Boys.
Oui, c'est vrai. C'est ça.
Mais ce qui est intéressant... On compare, fin du synopsis, puis tu sais, il y a eu un film de roller derby il y a 15 ans à peu près, c'était-tu 2009, c'est ça?
Ouais, je pense
pas mal ça, 15 ans. Whip It, qui était réalisé par Drew Barrymore, la seule réalisation qu'elle a faite, avec Elliot Page à l'époque en modèle féminin. Puis c'était comme, elle intégrait une ligue de roller derby, la ligue était établie, mais c'était une joueuse un peu... avec beaucoup de talent, qui joignait la ligue puis qui mentait sur son âge aussi, puis etc. Fait que c'était comme elle contre le punch. Là, c'est comme personne ne sait jouer, on apprend à jouer. Le but, c'est d'intégrer la ligue. Fait que c'est pas un film où il y a six matchs de derby puis il faut tout comprendre, puis est-ce qu'on va gagner le championnat. Leur but, c'est juste de faire un match puis d'attirer plus de monde. Donc, c'est de travailler ensemble, de collaborer, de se respecter, de défier... l'ordre public, non, mais défier les attentes qu'on a envers nous, etc. Il n'y a pas le même arc, mettons, qu'un film sportif traditionnel.
Et aussi le subterfuge, c'est que vu que le personnage joué par Gabriel Côté est quand même a besoin de canaliser sa colère et son énergie, elle a besoin de bouger. C'est comme une façon de la dévier de ses travaux communautaires en formant
ça.
Le club.
Fait qu'on fait ça en cachette.
On fait ça en cachette, effectivement. Donc, écoute, un film très sympathique. Avec la bande-annonce, on ne savait pas trop de quel côté que ça allait en termes d'humour et tout ça, mais Ça va au-delà de la comédie sportive. C'est vraiment un film, un bon people pleaser, un feel-good movie. Oui, il y a des super bons gags, mais les personnages sont très attachants. De scènes très, très émouvantes aussi, dont la fin quand même, qui, uh-huh. qui est très touchant. Donc, je pense que c'est vraiment un film qui respecte bien les conventions du genre, mais c'est très bien fait, très bien amené. Et ça peut vraiment plaire à un très grand public multigénérationnel, autant homme que femme.
Ouais, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire. On a discuté avec l'équipe, avec entre autres avec Gabrielle, qui est la scénariste, l'idéatrice du film, et Mélanie Charbonneau, que moi, on a mentionné, j'oublie de dire, c'est elle qui avait fait cet automne « Seul au front », qui est complètement différent quand même. Elle avait fait aussi « Fabuleuse » il y a plusieurs années, avec entre autres Juliette Gosselin. Fait que là, on s'est trempé. Les deux femmes sont fans de sport, de comédie sportive.
Sont athlètes aussi.
Sont athlètes de volleyball, de hockey. Fait que c'est vraiment senti, ce projet-là. Puis, elle s'en cache pas. Comme je leur ai posé hors micro la question. C'est comme, est-ce que ça vous tanne, tu sais, même sur le site du distributeur, tu sais, ça commence une comédie sportive 100% au féminin, blablabla. Bla, bla. Puis là, je suis comme, est-ce que ça vous tanne, ces affaires-là? Puis ils sont comme, ben nous, on l'embrasse, tu sais, parce que ça peut être tannant, là, la fameuse comparaison de comme, ah, un peu comme les boys, mais au féminin, puis un peu comme ça. C'est sûr qu'ils veulent pas qu'on dise comme les boys, mais au féminin, parce que c'est pas la même histoire, c'est pas du hockey, c'est pas blabla. Mais de dire la comédie 100% féminine et tout, ben ils disent, ben tu sais, c'est un peu vrai, là, dans le sens que ben, c'est une réalisatrice, une scénariste, c'est une équipe de filles, ça. Après, nous, c'est pas ça notre cheval de bataille quand on a créé le film, mais notre but, c'est de faire un film qui va plaire aux gens, puis que les gens vont aller voir, puis être divertis, puis avoir du fun, puis trouver ça drôle, puis dire à leurs amis d'y aller, que vous soyez gars, femme, trans, peu importe, c'est pas grave, non-genré. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est pas leur pitch à elles, mais ils sont comme, c'est bien correct. Mon but, c'est pas de défendre, de dire, faut pas dire que c'est féminin, parce que si c'était masculin, vous diriez pas que c'est un film masculin, puis gang, gang, gang. C'est comme... fait que moi, je trouvais ça cool comme, comme discussion, mais comme position, bref, là-dessus. Puis notre épisode spécial est déjà en ligne. Je l'ai mis mercredi soir tard, mais tout de même, un bon entretien, parce qu'on a discuté. Ouais, je pense qu'avec, on a fait deux groupes, et avec chacun des groupes, on aurait pu parler pendant une bonne heure et et de tout et de rien. Tout du monde ultra sympathique. Fait qu'on discute de la genèse, de la production, puis ce sont très vocales, toutes.
Oui, ça, ils ont beaucoup d'énergie.
Ouais, avec Mélanie et Gabrielle. Puis dans un deuxième temps, avec les comédiennes, il y avait Juliette Gosselin, Debbie Lynch-White et Lyraël Dauphin. Aussi, tout cool. Puis tu sais, juste du fait, évidemment, que c'est triché un petit peu. Des fois, le patin, il y a des cascadeuses, des choses comme ça. Mais il a quand même fallu, les filles, ont fait un bootcamp pour...
3 mois d'entraînement.
C'est ça, parce que si tu triches trop, ben là, ton film a l'air plus réel. Là, si à chaque fois, les plans de patin sont coupés, puis tu sais, il y a certaines scènes plus spectaculaires où ça le fait.
Et d'ailleurs, il disait aussi que au niveau du casting, c'était pas un prérequis de savoir patiner. T'sais.
Non, parce que sinon, il y aurait eu personne.
Ça aurait été plus dur. Donc, il fallait que ce soit le personnage, mais il fallait que les filles soient game d'aller s'entraîner puis de pas faire leur technique.
C'est la grande... c'est la question Armageddon. Là. Est-ce que c'est plus simple de... Tu sais, normalement, dans Armageddon, si t'étais passé, c'est que t'aurais pris des astronautes puis t'aurais formé à forger. Mais eux, ils disaient, non, c'est plus simple de prendre des foreurs puis des former à être des astronautes. Fait que c'est un peu pareil. T'sais. Si tu prends juste des vraies filles qui font du roller derby, mais tu leur apprends à être comédienne, ben là, t'auras moins des gros noms, t'auras pas les faces qu'on veut. Mais à un moment donné, ils affrontent justement la fameuse équipe. Puis là, c'est la vraie équipe, une des vraies équipes de Montréal, etc. Fait que mais justement, ils ont pas de rôle parlant, là, ils sont juste sur le jeu et tout. Fait que chaudement recommandé. J'ai une critique un peu tiède, mais je suis comme, il faut pas être... C'est pas dans le sens que ça fait pas petit peuple, mais tu sais, c'est pas un film qui se vante de transcender le cinéma et renouveler la comédie de genre. C'est juste, on le fait, puis tu sais, pensez-y même pas là, que c'est féminin. Là.
C'est ça.
Il y a pas de revendication sociale si forte que ça dans le film. Là.
C'est un pur divertissement pour grand public, complètement assumé.
Des personnages un peu caricaturaux, stéréotypés, mais parfaits. La police, la personne trans, la lesbienne, là, ils sont là, puis c'est le fun. Le duo mère-fille est le fun pas mal aussi. Si vous voulez ma fille, ben faut prendre la mère comme ça dans l'équipe. Mais là, amener, ils vont être toutes. L'équipe va s'écrouler parce qu'on chicane, mais tu sais. Est-ce qu'elles vont revenir ensemble à temps? Bref, il y a ça.
Oui, allons du côté français.
Oui, une comédie, on est tout en légèreté quand même.
Répondeur de Fabienne Godet.
Oui,
que moi, j'ai pas eu la chance de voir, mais que toi, tu as vu.
J'ai eu la chance de voir, j'ai vraiment bien apprécié ce film-là avec Denis Podalydès et Salif Cizé. ça a l'air, ben, je vous reparlerai un peu de Salif par après, parce que évidemment, ça ne dit rien à personne. Je vais vous lire la synopsis, puis vous allez dire, bon, une autre comédie, vaudeville, ciel, mon mari. Mais il n'en est pas. Allons-y étape par étape. Baptiste, un imitateur de talent, parvient pas à vivre de son art. Il joue dans une salle de spectacle, mais c'est pas très rempli, fait qu'il essaie de mousser ça. Mais il va être approché par Pierre Chauzène, donc joué par Podalydès, qui est un romancier célèbre, mais très discret, pas ses réseaux sociaux et tout. Mais il arrive pas... Il a un ambitieux projet pour son prochain livre, plus personnel, pour le rapport avec la relation avec son père, très conflictuel, mais il n'arrive pas à s'asseoir puis écrire parce que son téléphone sonne tout le temps, sa fille veut des nouvelles, son ex veut des nouvelles, son éditeur, il y a tout le temps quelqu'un et des projets où il est appelé en tant que qu'auteur des classes de maître, des affaires, puis il dit « j'ai juste besoin que ça sorte, mais je peux pas prendre une secrétaire ou un secrétaire, un adjoint, parce que il va toujours revenir vers moi pour avoir mon approbation, puis je veux juste qu'on me sacre la paix, mais que les affaires continuent à avancer, puis etc. » Fait qu'il dit... Il voit cet imitateur-là en devenir, il dit « J'aimerais ça que tu imites ma voix, je te prête mon téléphone et tu réponds, puis invente, surf là-dessus, mais donne-moi du lousse. » Fait que parce qu'il a besoin d'argent, Baptiste va accepter, mais là, il va se prendre au jeu un peu de inventer finalement la vie de Pierre. Je ne vais pas mêler loin de Pierre Chauzène. Mais est-ce que tout ça va faire des complications? On va rendre tout le monde heureux, la relation avec sa fille aussi, entre autres, avec son père, etc. Fait que c'est ça, on pourrait s'imaginer qu'à chaque fois, c'est comme « Oh non, le con, il a dit ça », etc. Mais il n'en est pas. C'est une comédie quand même... intelligente, là, je veux pas, comment dire, ça va pas changer le cinéma avec un grand C, mais c'est très, très appréciable, ça s'écoute super bien. C'est d'ailleurs le film qui a gagné le prix du public au fameux Festival international de comédie d'Alpes d'Huez, de comédie francophone, où des fois, des films québécois vont être présentés en compétition, voire compétition. Fait qu'on est plus proche à les limites du Emmanuel Mouret. Là. C'est pas Christian Clavier ou Didier Bourdon, justement, dans ce grand guignolesque. Il n'y a pas ça dans les jeux. C'est très touchant de la manière que c'est. Je dirais qu'il n'y a pas de grande morale non plus, le film. Essaie pas d'en mettre plus que ce qu'il y a besoin. C'est vraiment l'aventure de ces deux gens-là qui vont apprendre à se connaître là-dedans. Ça va leur mettre un certain stress. Il me semble aussi que c'est une durée... 100% raisonnable, genre 1h40 et tout. Fait que... Mais là, je me disais... C'est qui ça, Salif Cizé? Puis je me demandais si c'était un vrai imitateur qui avait utilisé ce véhicule-là pour faire ça, mais non, c'est comme un animateur, comédien, je sais pas s'il est humoriste ou pas, mais non, il a juste essayé d'imiter le mieux possible la voix de Denis Podalydès.
Donc c'est lui qui...
Mais il réussissait assez, mais en post-synchro. Okay. Denis a repris les voix comme en doublage, là, en même temps pour suivre la voix. Puis on jumelait ça pour faire une espèce de mélange des deux que ça sonne comme lui, mais c'est pas tout à fait lui. Puis il tient à mentionner que c'est pas fait avec de l'IA. Là. C'est vraiment... on enregistre les deux, on mixe ça avec des faders, puis etc. Fait que ouais, c'est une petite tricherie qu'ils ont faite comme ça. Mais c'était quand même surprenant parce que dans... Écoute, c'est pas tout, je connais pas tous les secrets, mais tu sais, il y a des moments où on le voit faire son spectacle, justement, parce qu'éventuellement, il va gagner ou pas en notoriété au fil du récit. Mais... il fait des imitations de d'autres mondes et tout, mais il me semble qu'il imite pas des gens si connus. Là. Fait que je pense que c'est comme du funk d'un acteur qui s'amuse à imiter des fausses voix d'affaires. Ou peut-être qu'on a trichouillé un petit peu comme ça. Je me souviens plus, là, s'il fait des imitations de gens connus, mais c'est pas comme... il imite pas Donald Trump. Là. Ça doit être des affaires français, mais c'est ça. Fait que je trouve ça encore plus intéressant que si on avait juste pris comme un imitateur connu, puis on dit « te le mettre dans le film, puis ça fait une pub pour toi-même. » Puis genre, fait que...
Fait que Marc Dupré ici.
On oublie qu'il faisait ça avant de faire des pubs de chars, des chansons. Fait que voilà, je n'ai quand même que de bons mots à dire pour le répondeur.
Une belle surprise, finalement.
Ouais, tout à fait, exactement. Et c'est ça, parce que l'affiche est quand même assez...
C'est générique.
C'est un gros cellulaire, les deux, puis il y en a qui est coucou derrière, puis justement qui a l'air de dire « Ah non, quelle bêtise t'as dit! » Puis le film est pas ça, est beaucoup plus intéressant que ça.
Une affiche qui date fin des années 90 avec Robin Williams, genre.
Ouais, ben ça, l'affiche fait très... avec sans offense, là, mais tu sais, on savait pas quoi faire, fait que les deux gars, un téléphone, puis c'est ça qui se passe dans le film. Je sais pas non plus qu'est-ce que j'aurais fait, mais... Peut-être que juste mettre, je sais pas, un cellulaire avec un certain message texte, « Papa, c'est toi », tu sais, puis là, tu fais plus « Ah, OK, ça aurait pu être plus subtil », mais bon. C'est parce que aussi, tu sais, nous, c'est moins des vedettes ici. Même Denis Podalydès, c'est dans plein de films, mais c'est pas une vedette. Là, fait que peut-être que c'était important qu'on voit les comédiens. Là.
Ouais.
Autre sortie, ça sort à Montréal en sortie plus limitée, probablement ailleurs, peut-être par la suite en région, en ciné-répertoire. Mauvais mari, donc Wiksarinjitara de Zacharias Kounouk, lui qui est célèbre entre autres pour Atan Arjouat, la légende de l'homme rapide qui était au début des années 2000.
Ouais.
Hey, je veux pas me tromper, j'ai oublié de noter, mais c'est un film de Première Nation, mais je me souviens plus. Ouais, Inuk?
Oui.
Ouais, c'est ça. C'est pas Inou, mais c'est Inuk, où je suis mêlé, puis Inuk, c'est la langue. Puis... Non, c'est de l'Inou, c'est les Inuits. Fait que je pense que c'est Inuk, ça. Bref. Après la mort mystérieuse de son père, une jeune Inuit, pardon, finalement, ben, c'était là, part avec sa mère dans une autre communauté. Quittant le jeune homme auquel elle était promise. Fait que c'est très un peu shakespearien, là, tragédie grecque.
Oui, ouais, très c'est ça. Conte aussi. Hein.
Exactement. Ouais, il y a quelque chose de conte fantastique dans le fond. C'est assez modeste en action, mais c'est le fun de voir un cinéma. Ben, pas international, mais différent. Ouais, c'est vraiment d'autres cultures.
C'est une expérience un peu déroutante quand même. Puis ça nous donne accès à une culture qu'on connaît moins. Fait que juste à ce niveau-là, si vous êtes moindrement aventurier des fois dans votre cinéma, ça peut être intéressant à voir quand même.
Parfait.
Qui avait gagné le Grand Prix d'ailleurs au film au TIFF comme film canadien. Canadien. Okay, c'est ça, ouais.
Depuis le 26 novembre, j'en parle une couple parce que je suis pas sûr qu'on va tous les voir ou qu'on va les recouvrir dans les prochaines semaines. Fait que c'est la vie. Parce qu'à un moment donné, des fois, quand ça ressort 4-5 semaines plus tard, on dirait que c'est plus trop d'actualité d'en parler. Je l'avais nommé la semaine passée Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré, Knives Out Mystery, qui est en sortie de à peu près 2 semaines. Il joue un petit peu plus large que je pensais. Finalement, il y a une dizaine d'écrans au Québec, le nouveau. Benoît Blanc de Rian Johnson, qui est un film de Netflix, mais qui a un beau petit 2 semaines quand même sur écran. Tout le temps une vue sympathique au cinéma avec Daniel Craig, puis tout le reste du Nouveau Monde parce que c'est une nouvelle enquête. On dit beaucoup de bien de Josh O'Connor qui brille. Josh O'Connor a genre 5 films cette année, là, c'est trop comme passé, mais il est brillant dans tous les films dans lesquels il joue. Et là-dedans aussi, on l'a vraiment découvert dans Challengers il y a un an de Guadagnino, exactement. Eternity de David Frayne, dans l'au-delà où chaque âme doit choisir avec qui va passer l'éternité, il y a une femme qui est déchirée entre l'homme avec qui elle a partagé toute sa vie et son amour de jeunesse qui était décédé à la guerre. Donc, qui choisir? Et c'est un beau trio, Elizabeth Olsen, Miles Teller qui joue celui avec qui elle a mené toute sa vie et Callum Turner, cet amour perdu. Il y a aussi Davin Joy Randolph, très sympathique, qu'on avait vu dans le film de Noël avec Paul... J'ai oublié tous mes noms aujourd'hui.
Giamatti, c'est ça.
Triangle amoureux, un peu existentiel, des dialogues sympathiques. C'était un peu de tergiversation et tout. Là,
ça au niveau de la DA, ça va être très intéressant parce qu'on est dans justement dans l'au-delà et tout ça.
Ouais,
dans,
ben, on dit
dans
beaucoup...
des... Ouais, vas-y.
J'allais dire The Good Place, là, un peu cet événement surréel qui fait aussi très décor, mais justement, c'est comme un monde de décor.
Ouais.
Ça, il y a Amnette de Chloé Zhao qui sort justement un peu à Montréal et ici, il y a une petite expansion la semaine prochaine à suivre et tout. C'est un film surtout, je dirais, pour les amateurs de la course aux Oscars, Jesse Buckley, Paul Mescal qui vont assurément être en liste pour cette grande performance. Qu'est-ce qui se passe dans... C'est pas Hamlet, mais c'est bien Amnette parce qu'en fait, c'est l'enfant de Shakespeare et de sa femme qui va pas bien. Ça va être la mort de leur fils unique et tout ça va tranquillement l'inspirer à écrire justement Hamlet là-dedans. On est dans l'Angleterre rurale du 16e siècle. Fait que c'est une ode vibrante à l'art et à la création. Et c'est inspiré du roman de Maggie O'Farrell qui co-scénarise. Fait que c'est un film artsy de performance et de prouesse et tout.
Ouais, comme un par Chloé Zhao de No Man's Land.
Oui, exact.
Quand même coproduit par Sam Mendes et Steven Spielberg. Fait qu'il y a il y a du poids là-dedans. Là.
Mais je pense pas que ça va faire courir les foules. C'est vraiment amateur de... Là, on est plus dans le cinéma avec un grand C. Ouais. Là. Fait que moi, je suis bien curieux de voir le film, mais on n'y a pas eu accès encore, etc. Et on termine l'épisode, en fait, tout simplement. Ça conclut ce balado. La semaine prochaine, 5 décembre, il y a encore pas mal de films là, qui sortent dans les prochaines semaines. Moi, je suis très curieux de voir, parce que...
Five Nights at Freddy's 2.
Non, ah, vraiment okay. pas. Mais L'Homme qui rétrécit, oui, avec oui, Jean oui. Dujardin, il est sorti en France déjà. Il y a, c'est pas des critiques dithyrambiques, il y a du bien, du moins bien, mais c'est justement des films comme ça qui divisent, ça me donne envie de voir mm-hmm. ça. Film d'aventure, on dirait qu'on... Dans ce genre-là, on n'en voit pas ça si souvent. Puis c'est l'adaptation d'un roman de il y a très longtemps. Quand même,
oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de jaser avec Jean Dujardin et Yann Kounen, le réalisateur. C'est ça. Donc ça, le papier va arriver la semaine prochaine.
Parce que tu leur as parlé en deux temps, mais tu mets ça ouais, dans le ça. Même...
Oui, on va mettre ouais, ensemble, okay. tout à fait.
Fait que, ouais, ben, tu mettras ça en ligne dans mm-hmm. la semaine, si tu
peux. Yep.
Bref, curieux de voir ça, puis plein d'autres mm-hmm. films, puis on s'en reparle, puis on continue le dernier droit vers le temps des fêtes. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Et like, share and subscribe là où vous écoutez le balado. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné, hey. Le nouveau... est arrivé avec Catherine Chabot en couverture pour discuter de Folichonnerie qui prendra mm-hmm. l'affiche le 30 janvier prochain. Les plein de nouveaux articles et chroniques rétro. C'est vrai, on n'a pas pensé de se garder, de présenter le magazine.
Ben, d'ailleurs, la chronique rétro est sur Hamlet au cinéma.
Ah, ben là, voilà. Pas fou pantoute, ça.
Ça va te donner le goût de faire un marathon dans ton temps des fêtes, Hamlet.
Ah oui, ça va être léger. Moi, je suis pas aussi Kenneth Branagh que toi là, dans toute l'œuvre Shakespeare et tout. Bref, ce nouveau magazine est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous avez de la colère en vous, venez rejoindre ma nouvelle équipe d'Ultimate Curling.